La carte blanche, Africa Radio.
Malgré de nouvelles arrestations d'opposants au Bénin, faut-il espérer la tenue d'un dialogue pour décrisper l'atmosphère politique très tendue? C'est notre débat du jour, mais avant, nous allons retrouver notre invité carte blanche de ce vendredi. Et il s'agit de James Gassongo. Bonsoir, Monsieur Gassongo.
Bonsoir.
Vous êtes financier comptable de formation, mais vous êtes invité comme auteur du livre « Tuez-le-nous, le couloir de la mort » paru ce mois aux éditions Saint-Honoré. Et votre premier sujet choisi, ce sont ces manifestations lancées depuis le début du mois par la société civile à Beni en RDC pour demander le départ de la MONUSCO dans l'est de la RDC.
Oui, c'est vrai que mon premier sujet, c'est celui de la RDC. Il concerne le dossier de la MONUSCO. Ça fait pratiquement 21 ans, voire 22 ans, que la MONUSCO est en RDC. Et aujourd'hui, on constate que, bon, pour certaines populations, les attentes de la population ne sont pas satisfaites. Donc, du coup, la population se manifeste. Et je crois que le gouvernement de Laurent Désiré Kabila, déjà, voulait entamer ce dialogue pour le départ de la MONUSCO.
Mais du côté du pouvoir, on affirme que certains de ces jeunes sont manipulés et qu'il y aurait même dans leur rang des combattants.
Oui, il est vrai qu'on peut le dire, mais bon, les attentes, après 22 ans aujourd'hui, le débat reste ouvert. Est-ce que la population se retrouve? C'est vrai que de deux côtés, de part et d'autre, il y a des raisons. Il y a ce que l'on peut avancer. Le pouvoir a bien raison de dire qu'ils ont besoin de la MONUSCO, mais la population se rend compte que ça fait 22 ans que ça dure.
Vous aussi, vous pensez que la MONUSCO, face aux accusations d'incapacité à assurer la protection des populations, doit quitter la RDC?
Oui, je partage ce point de vue. Je me dis quand même, en 22 ans, 21 ans, c'est largement, c'est trop, c'est un peu trop.
Mais est-ce que les FRDC sont en mesure de prendre la relève et de faire mieux que lorsqu'il y avait la MONUSCO?
Combien de temps devrait-on accepter la MONUSCO sur ce territoire? C'est la question fondamentale. 20 ans, c'est beaucoup quand même. Lorsqu'ils sont arrivés, on se disait que ça devait durer 5 ou 10 ans, mais aujourd'hui, on est à 22 ans, depuis 1999.
Merci.
Aujourd'hui, les populations de l'équipe.
Ce sont des abusés.
Merci.
Deuxième sujet, c'est la mort brusque et inattendue du président tchadien Idriss Déby Itno, qui est donc décédé d'après la version officielle en plein combat contre des rebelles du FACT dans le nord du Tchad. Comment avez-vous réagi à ce décès?
Mais comme tous les Africains, on se dit que c'est vrai qu'il y a des reproches, on peut reprocher des choses à Idriss Déby, le maréchal, mais bon, la mort quand même d'un homme de façon brusque et violente, ça frappe les esprits. Il y a une autre façon de faire pour changer les hommes au pouvoir. C'est vrai que la version officielle parle jusque-là de l'attaque des rebelles, mais bon, il y a d'autres qui pensent qu'il faut essayer de scruter. Il y a un peu trop de flou devant.
Et que pensez-vous du fait que son fils ait succédé à son père à la tête d'une transition militaire?
Bon, de mon point de vue, l'Afrique doit changer quand même. Il y a une constitution qui existe, il y a des textes, les textes sont là, et ces textes s'inspirent de la 5e République de la France. En cas de décès du chef de l'État, je crois que c'est le président de l'Assemblée qui assure l'intérim.
Le président de l'Assemblée lui-même a déclaré qu'il n'a pas souhaité assurer cet intérim. Il a affirmé qu'il faisait confiance aux militaires et qu'il n'a reçu aucune menace pour renoncer à cette obligation constitutionnelle.
Oui, c'est vrai qu'il a renoncé. Mais aujourd'hui, peut-on dire que ce comité mis en place est légal? Nous rentrons dans un cycle de légalité. À partir du moment où nous avons accepté, enfin, que l'on accepte d'installer ceux qui n'ont pas le droit d'y être, finalement, on se demande si on respectera le reste. Il y a quand même une constitution. Il y a déjà eu des précédents dans d'autres pays.
Et dernier...
Il y a eu le Gabon qui a eu la mort d'un président, qui a été assuré par la présidente de l'Assemblée. Je ne sais même pas si les dispositions ne permettent pas que le vice-président de l'Assemblée puisse assurer l'intérim. Enfin,
Donc, à votre avis, si le président de l'Assemblée nationale n'en voulait pas, on pouvait céder le pouvoir intérim par intérim. Le vice-président pouvait assurer l'intérim.
Oui, pour moi, ça irait un peu plus dans le sens de la légalité.
Merci.
Au lieu d'accepter que ça passe dans les bras d'autres personnes.
Dernier sujet, M. James Gassongo, c'est le verdict prononcé dans l'affaire George Floyd. Le policier blanc meurtrier Derek Chauvin a été déclaré coupable.
Oui, sur ce sujet, je dirais que c'est une très bonne chose. Cette décision est symbolique, même si on n'est pas satisfait. Après cet acte, je crois, de Derek Chauvin, il y a eu d'autres qui ont commis des meurtres, qui ont continué à se comporter comme s'ils étaient dans une jungle. Ils pouvaient se permettre de tirer sur les Noirs comme si c'était des animaux. Aujourd'hui, nous sommes contents du verdict.
En attendant de connaître la sentence.
Oui, nous sommes déjà contents.
Merci
beaucoup. Ils sont reconnus coupables déjà, c'est une très bonne chose. Et il faut dire que pour aujourd'hui, nous souhaitons que les gens puissent faire les choses de façon différente. Ils doivent respecter les autres. Et je suis vraiment content du mouvement Black Lives Matter.
Merci, qui s'est mobilisé. Hein. En tout cas, merci à vous d'avoir commenté le temps fort de l'actualité de cette semaine avec nous, James Gassongo, financier comptable, auteur du livre « Tuer le nous, le couloir de la mort » publié aux éditions Saint-Honoré.
Africa, le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Et nous allons parler du Bénin. Le dialogue et la réconciliation réclamés par certaines voix sont-ils encore possibles? Faut-il y croire? Nous en débattons ce soir avec quatre invités, notamment Victor Topanou. Bonsoir, monsieur Topanou. Maître de conférence, vous m'entendez, monsieur Topanou?
Je vous entends très bien.
Bonsoir à vous, merci d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence de sciences politiques à l'Université d'Abomey-Calavi, ancien ministre de la Justice de Thomas Boniyayi et membre de la commission chargée des réformes politiques et institutionnelles mises en place par le président Patrice Talon en 2016. Nous avons également le plaisir d'accueillir Ndonklam Abalo, porte-parole de l'USL. Monsieur Abalo, bonsoir.
Bonsoir à vous, madame la journaliste, et bonsoir à tous vos auditeurs.
Parti d'opposition de Sébastien Adjavon, vous êtes à Cotonou. Et également avec nous, Julien Ossou, coordonnateur régional du WANEP Bénin, c'est le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix. Monsieur Ossou, vous m'entendez, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Et enfin, le président du Parti pour la libération du peuple, PLP, Léonce Oumbadi. Monsieur Oumbadi, bonsoir.
Bonsoir madame et merci pour l'invitation et l'intérêt que vous avez concernant la situation pour le Bénin.
Merci beaucoup messieurs de votre participation à cette émission. Mais avant d'ouvrir le débat, je veux bien m'adresser à peut-être à monsieur Abalo qui est... non, on l'a perdu à l'instant, me fait-on signe. Alors je vais donc me tourner vers vous monsieur Oumbadi pour avoir des précisions sur cette information qui a circulé dans beaucoup de plateformes béninoises hier selon lesquelles la résidence de l'ancien président Boniyayi, sa résidence de Kadjioun à Cotonou, a été encerclée par les forces de l'ordre. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a effectivement ce détachement d'hommes en uniforme qui a été déployé autour de sa maison?
Bien évidemment, je vous le confirme, le domicile de l'ancien président Thomas Boniyayi à Cotonou et à Parakou au nord du pays ont été encerclés par la police après deux visites successives sur les lieux. Ce n'est pas seulement la résidence ou les résidents du président Boniyayi qui sont encerclés, pris d'assaut par le régime illégal et légitime de Patrice Talon au pouvoir encore au Bénin. Alors, je vous parle, c'est la purge sauvage au sein de l'opposition béninoise. Il y a beaucoup d'opposants qui sont injustement en prison, qui sont en clandestinité, qui sont tués, qui sont en exil. Et donc, actuellement, au Bénin, c'est une situation vraiment dramatique qui prévaut et il y a lieu que nous puissions prendre les taureaux par les cornes pour remettre notre pays sur le rail de la démocratie.
Merci beaucoup pour cette précision. Victor, Monsieur Duncan Abalo, on vous a retrouvé, vous m'entendez?
Oui, bien sûr, je vous reçois.
Dites-nous, que sait-on aujourd'hui de ce qu'on reproche exactement à Joël Aïvo qui a été arrêté? Ses avocats avaient déclaré qu'il a été mis en examen pour atteinte à la sûreté et blanchiment de capitaux, mais attendait de savoir sur la base des éléments sur lesquels la justice est fondée pour le mettre en examen. Est-ce qu'on en sait un peu plus aujourd'hui?
Ben, on n'en sait absolument rien. Et les avocats de M. Joël Aïva ont dit clairement que pendant qu'on faisait les auditions, on a parlé d'un chef d'accusation qui, curieusement, a changé les motifs d'inculpation de M. Joël Aïva.
Oui, au début, d'après ses avocats, on parlait d'incitation à la violence, de manifestations illicites, et avant d'arriver au blanchiment de capitaux et tentatives de coup d'État.
Exactement. Alors, dans un pareil cas de figure, qu'est-ce que le procureur spécial devrait faire? C'est donc de communiquer abondamment sur ce qui est reproché à M. Joël Aïva. Nous constatons simplement que le procès a été programmé au 15 juillet, donc banalement, M. Aïva passera 3 mois en prison sans réellement qu'on sache ce qui lui est reproché. Alors, ce fonctionnement de l'appareil judiciaire est un fonctionnement qui gêne, puisque M. Aïva, normalement, a toutes les garanties de représentation. S'il y a des choses qui lui sont, des choses qu'on est en train de lui reprocher, il faut aller vite pour qu'on sache exactement ce qu'il en est. Mais le fonctionnement nous permet aujourd'hui de dire que, eh bien, M. Joël Aïva a été gardé, comme bien d'autres opposants, d'abord avant qu'on ne sache maintenant quels sont les chefs d'accusation qu'il faut leur imputer. Et ça, ce n'est pas un fonctionnement normal. Et aujourd'hui, le secrétariat d'État américain s'est inquiété également de cette situation en disant que normalement, on doit aller vite dans ce genre de procédure pour que les gens sachent réellement ce qu'il en est. Mais vous constatez qu'il y a quelques manœuvres dilatoires qui permettent juste de maintenir des gens.
Pardon, M. Abalo, on va faire un tour de table. Les autres doivent aussi s'exprimer. Dites-moi, en un mot, est-ce qu'on en sait un peu plus aussi sur le sort de son comptable qui a été arrêté?
C'est toujours à moi?
Oui, M. Abalo, très brièvement.
Non, mais c'est dans le même dossier. On n'a aucune information. Et d'ailleurs, on n'a pas d'information sur tous ceux qui ont été arrêtés réellement. Donc, c'est pour ça que nous disons que ce sont des manœuvres politiciennes, simplement pour maintenir des opposants dans les liens de la détention.
Monsieur Victor Topanou, comment réagissez-vous à cette ambiance qu'ont dénoncé les deux précédents intervenants? Monsieur Oumbadi a parlé tout à l'heure de purge sauvage des opposants.
Oui, je pense que dans le rôle qui est le leur, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent et surtout utiliser les mots qui correspondent à leur analyse de la situation. J'imagine que vous ne m'avez pas invité pour le compte du gouvernement, donc je n'ai pas de mandat de représentation du gouvernement, mais évidemment la question que vous me posez sur ce que je pense de la situation...
Mais c'est surtout en tant que membre de ces réformes politiques controversées
qui sont
tout à l'origine de la querelle politique.
Non, pas forcément. Je pense qu'il y a le combat politique qui est noble et qui engage, qui oppose une mouvance, une majorité présidentielle et une opposition. Ça, c'est de très bonnes guerres. C'est d'ailleurs utile pour la vitalité démocratique. Donc, je pense que ça, c'est tout à fait autre chose. Si on veut parler des réformes, on peut en parler tout au long d'une émission. Ceci dit. Il est vrai que au jour d'aujourd'hui, les opposants ont le droit de dénoncer des arrestations. Ils ont le droit de dénoncer des arrestations. Sauf que il faut écouter le cas en face. Et ce que moi j'ai compris, pour avoir écouté sur une autre radio le directeur de la communication de la présidence, je crois hier ou avant-hier. Voilà, je pense qu'il s'agit, effectivement, il faut le dire, il ne faut pas se cacher non plus, il ne faut pas cacher la vérité. C'est la première fois depuis 1991 que nous avons une violence préélectorale aussi importante. Je vous rappelle que c'est également la première fois que, de façon méthodique, le boycott des élections a été organisé dans 3 communes, Tchaourou, Savet et aimantés. Donc, lorsque vous êtes en situation de gouvernant, j'imagine que si c'était le cas de ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui, ils se feront l'obligation de chercher à situer les responsabilités des uns et des autres.
Donc, si j'ai bien compris, M. Topano, ces arrestations en cascade d'opposants visent à établir, comme le disent les autorités, les responsabilités dans ces événements préélectoraux dont vous parlez ?
Oui, je crois qu'on n'en parle pas suffisamment. On n'a jamais eu ça chez nous. On n'a jamais eu autant de violences préélectorales. Et qui plus est, vous imaginez, trois communes importantes où on n'a pas voté.
Mais que dites-vous à cette observation que vient de faire M. Abalo en disant qu'au début, on a arrêté M. Aïvo pour violences, manifestations illicites, et aujourd'hui, on parle de blanchiment de capitaux. C'est comme si on arrête d'abord les opposants et ensuite on cherche des chefs d'accusation. Est-ce que c'est vraiment pour rechercher les responsabilités dans ces violences qu'ils ont été arrêtés ?
En fait, je pense qu'à l'origine, on ne peut pas faire abstraction du fait qu'il y a eu des violences. Et on ne peut pas faire non plus abstraction du fait qu'un gouvernement en place cherche à établir les responsabilités en cas de pareille violence. On l'a vu aux États-Unis avec l'invasion du Capitole, on l'a vu en France avec les Gilets jaunes. Maintenant, ce que vous venez de dire, je l'ai entendu dans la bouche de l'un des avocats de Aïvor et de Mme Madougou, le président Robert Dossou, qui disait effectivement que lorsqu'il a été présenté à la brigade économique et financière, c'est un chef d'accusation qu'on lui a opposé. Et quand il a été présenté au procureur spécial, le procureur spécial a donné un autre chef d'accusation. Quand on connaît un peu le système judiciaire, on sait qu'il y a possibilité de requalification des faits. Ce n'est pas interdit. Maintenant, si les avocats estiment que...
Allô, monsieur Abalo pardon, allô, monsieur Topano.
Allô. Oui, madame.
Oui, terminez vos propos, s'il vous plaît. On vous avait perdu.
Non, je disais que c'est comme ça que j'essaie de l'expliquer et de le comprendre. Maintenant, évidemment, je pense que c'est jamais la joie de savoir qu'on a un ami, un collègue qui est en prison et merci. Sans savoir exactement pourquoi.
Voilà. Merci, monsieur Topano. Alors, Julien Oussou, quel est votre avis sur ce climat politique de ces dernières semaines avec de nouvelles arrestations? Que pensez-vous des arguments des uns et des autres?
Merci beaucoup, madame. Je pense que c'est, qu'on le veuille ou non, que ça soit d'un camp ou d'un autre, il y a beaucoup d'inquiétudes et beaucoup de psychoses qui circulent. De toutes les façons, même si on est tous conscients que les violences qui ont eu lieu, il y a lieu de situer les responsabilités, de savoir qui a été impliqué, à quel niveau. Peut-être aussi qu'il faut aller au-delà de cette violence pour, de mon point de vue, étudier ou regarder un peu telles que les procédures en cours là sont conduites. De toutes les façons, ça donne l'impression comme si l'on n'est plus en train de faire comme on avait l'habitude de faire. Vous voyez? Et vous regardez aussi un peu les manières qui sont comme des aspects qui inquiètent les uns et les autres. La déclaration dont a parlé Donclam Abalo tout à l'heure, si vous la lisez, vous allez voir que même avec toute la diplomatie qu'a pu utiliser, l'auteur de cette déclaration, vous allez vous rendre compte qu'il y a du gêne, il y a des malaises, il y a des situations qui inquiètent. Alors, des arrestations, disons, western, pour des individus qu'on sait que, bon, il y a des possibilités qu'on puisse les faire comparaître. Peut-être c'est les situations de ceux qu'on n'a pas pu ou qu'on a voulu arrêter, qu'on n'a pas pu arrêter, qui ont pu, disons, échapper au dispositif. C'est peut-être tout ça qui amène à réagir comme ça, mais de toutes les façons, ça crée une certaine psychose. Et quand on sait que toutes ces personnes sont en train d'être amenées à passer devant ce qu'on appelle une juridiction d'exception, comme nous le disons. On a des craintes de ce qu'on est en train de vouloir régler des comptes politiques. Et ça, c'est des craintes qu'on le veut ou
donc
non.
Donc pour vous, établissement des responsabilités, oui, mais pas de la façon dont la procédure est menée en ce moment.
Il faut faire en sorte que nous soyons tous citoyens impliqués ou non, informés ou non, soit quand même rassurés de ce qu'on n'est pas en train d'utiliser tout ça pour régler des problèmes politiques ou des comptes politiques. C'est là l'inquiétude, c'est d'ailleurs l'inquiétude qui transparaît dans tous ceux qui opinent sur la question.
Merci.
Il faut simplement se situer du côté peut-être du pouvoir pour avoir les informations, parce que le public et ceux qui doivent l'avoir n'ont pas, même les personnes soupçonnées n'ont pas toutes les informations qu'il faut. On a l'impression quand même
merci,
qu'il y a quelque chose
monsieur
qui se passe
Ousso,
de travers.
Merci beaucoup. On marque une courte pause, on se retrouve dans un instant.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Malgré la multiplication d'arrestations d'opposants au Bénin, faut-il continuer d'espérer ou de croire à un dialogue politique dans un proche avenir? Nous en débattons ce soir avec quatre invités. Donclam Abalo, porte-parole de l'USL de Sébastien Adjavan, parti d'opposition. Julien Ousso, coordonnateur régional du WANEP Bénin, le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix. Léonce Oumbadi, président du parti pour la libération du peuple. Et Victor Topanou, maître de conférence des sciences politiques et membre de la commission chargée des réformes politiques institutionnelles mises en place par le président Talon. Je vous redonne la parole, hein, monsieur Topanou, juste pour réagir à ce que certains ont exprimé comme inquiétude, qui sont aussi celles de la société civile. On a l'impression que la façon dont ces arrestations sont menées, il s'agit de cabale, de règlement de compte politique, disait M. Ousso.
Je ne reprendrai pas les mots à mon compte, mais que cela puisse créer de la hantise ou de un état d'esprit d'inquiétude, oui, probablement. Je pense effectivement que lorsque on est amené à arrêter des gens en pleine circulation, il y a bien des raisons de s'interroger, de savoir pourquoi il y a
donc
eu la question
de la
réformation.
Donc vous aussi, vous avez des doutes et des inquiétudes sur la façon dont on procède aux arrestations de ces opposants?
Moi, je pourrais m'interroger, en effet. Je peux m'interroger sur ces méthodes-là. Alors, à ce moment-là, pour dissiper, et c'est ce que je pense Monsieur Abalo Donclam a dit, je suis tout à fait d'accord avec lui, le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont des statuts de représentation, si vous voulez, des gens qu'on peut rechercher et à qui on peut déposer des convocations à la maison et s'assurer qu'ils viendraient. Voilà.
Merci.
Ça, c'est possible. Maintenant, il faut écouter la version d'en face. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Pourquoi ils ont fait ceci? Et quand on aurait entendu la version, les explications officielles...
Donc vous pensez qu'il y a des arguments qui peuvent justifier qu'on viole les droits des suspects?
Non.
Il y a des circonstances atténuantes à la violation des...
Non, est-ce que c'est une violation des droits lorsqu'on ne convoque pas?
Mais vous venez vous-même de dire que vous avez des doutes sur la façon dont certains de ces opposants ont été interpellés.
Je ne suis pas sûr que vous m'ayez bien compris, madame. Je vous dis, effectivement, que l'on peut s'interroger sur le fait qu'on interpelle des gens en pleine circulation, alors qu'on sait qu'ils ont une qualité de représentation. Ça, je le répète. C'est ce qu'il dit. Je vous explique que si la partie gouvernementale en est arrivée là, c'est peut-être pour une raison. Il faut qu'ils nous l'expliquent. Et quand ils nous l'auront expliqué, nous pourrons dire non, vous avez tort, vous avez raison. Je n'ai pas encore entendu la version
Merci.
Officielle. Mais sur le fait, je concède que l'on puisse s'interroger.
Merci
et
beaucoup.
Et ça, je m'interroge en effet.
Monsieur Oumbadi, on parlait d'arrestation d'opposants de ces dernières semaines. Monsieur Aïvo a été arrêté la semaine dernière. Mais avant, il y a eu le cas de Madame Madougou, mais il y a aussi d'autres cas d'affaires judiciaires. Est-ce que vous pensez que le pouvoir utilise la justice comme arme pour s'en prendre à l'opposition? Est-ce que vous dites qu'à un moment ou un autre, cela pourrait s'arrêter et qu'on passe à ce dialogue que vous, au niveau de l'opposition, vous espérez?
Non, Madame... La justice béninoise a été toujours manipulé, instrumentalisé depuis l'arrivée au pouvoir de Patrice Talon, depuis le 6 avril 2016. Et donc, nous l'avons toujours dit que cette justice est instrumentalisée, elle est vassalisée, elle est aux ordres du pouvoir illégal légitime encore en place. Et ça a été prouvé par plusieurs organisations internationales, notamment la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, notamment la justice espagnole à Madrid, notamment même ici en France où les autorités françaises au niveau de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés, a été obligée, pas de l'OFPRA, de retirer le Bénin de la liste des pays sûrs. Donc ça, c'est un secret de polichinelle.
Oui, mais d'accord, vous dites que depuis 2016, le pouvoir est constant dans sa démarche d'utiliser la justice contre les opposants, mais jusqu'où est-ce qu'il va aller? Est-ce que vous vous dites à un moment, est-ce que c'est le moment d'arrêter tout cela, de passer au dialogue pour sortir de la crise politique?
Aujourd'hui, la position de l'opposition béninoise, elle est claire. Nous demandons à ce que tous les otages politiques, tous les prisonniers politiques, tous ceux qui sont détenus dans les prisons béninoises pour leurs opinions soient immédiatement libérés. Nous avons demandé à ce que les conditions idoines soient créées pour que les exilés politiques puissent rentrer au pays. Alors, je vous parle, il y a beaucoup de nos compatriotes qui ont été contraints de quitter le pays. Ils sont dans des pays dans la sous-région, ils sont ici en France, en Europe, aux États-Unis, un peu partout. Nous avons demandé les assises nationales. Depuis 5 ans, l'opposition béninoise demande la tenue des assises nationales pour que nous puissions nous retrouver autour d'une table pour discuter des problèmes du Bénin et retracer un nouveau chemin démocratique pour le Bénin. Mais nous ne pouvons pas aller à ce dialogue-là sans faire le point de la situation. Aujourd'hui, Patrice Talon n'est plus légalement le président du Bénin, puisque son mandat a pris fin depuis le 5 avril 2021 à 0h.
Mais il y a eu élection qui l'a remporté.
Non, il n'y a jamais eu d'élection, madame. Donnez-moi une minute, je vais vous expliquer. Il n'y a jamais eu d'élection au Bénin. Patrice Talon a été élu le 20 mars 2016, à l'issue du second tour de l'élection présidentielle. Il a prêté serment le 6 avril 2016, conformément à la Constitution du 11 décembre 1990. Il a un mandat de 5 ans. Son mandat prend fin le 5 avril 2021 à 0h. Dès lors, à partir du 6 avril 2021, il n'est plus légitime, légal, pour continuer à gouverner notre pays.
Merci.
Et c'est pour cela que l'opposition et les forces vives de la nation ont appelé à des manifestations pacifiques pour faire le deuil de son régime autoritaire. Et M. Patrice Talon n'a trouvé autre solution que d'envoyer des chars pour tuer et massacrer les populations civiles, notamment au centre et au nord du Bénin.
Monsieur Oussou, dans ces conditions, quand on écoute M. Oumbadi, est-ce que vous pensez que de tels propos ne risquent-ils pas de radicaliser encore peut-être la position du pouvoir et éloigner effectivement la perspective de ce dialogue et donc de la réconciliation?
Il faut déjà constater et les positions sont déjà, disons, très très radicalisées. Les positions sont si tranchées que on peut avoir des doutes sur cela. De la même manière, quand vous entendez l'opposition, elle a ses positions et elle a ses positions non négociables. Et on a eu l'occasion du jour du scrutin, même après le scrutin, d'entendre aussi le tenant du pouvoir, le chef de l'État, qui ne considère même pas juste une once de possibilité qu'il y ait cette discussion ou ce dialogue dont on parle.
Ce n'est pas dans son agenda immédiat, d'après vous?
Voilà. Et donc, si vous regardez ça, les positions sont déjà si tranchées. Mais en fait, pour ce que traverse le pays, il n'y a pas d'autres outils, il n'y a pas autre outil que d'arriver à trouver le moyen de s'asseoir. Je ne l'appellerai pas, je veux dire, assise nationale, mais quand même, il y a comme une obligation de trouver les moyens d'en discuter. Sinon, de toutes les façons, Le débat viendra, le dialogue viendra à un moment donné, mais peut-être quand les conséquences auront été, disons, énormes, parce qu'on aurait pu commencer par dialoguer avant le scrutin, qu'on n'aurait peut-être pas eu tout ce qu'on a eu comme conséquence, comme violence pendant ce scrutin.
Merci.
Mais à chaque jour qu'on reporte, disons, cette obligation ou cette nécessité de dialoguer entre les 6 d'un même pays, qu'ils soient de l'opposition ou de la mouvance, On donne la possibilité à ce que les conséquences deviennent de plus en plus graves.
Merci.
Et qu'on donne la possibilité à ce que les fossés se creusent davantage, les positions deviennent de plus en plus tranchées.
Merci. Monsieur Abalo? Allô, monsieur Abalo? Je l'ai vu à l'instant à l'écran, mais Il est parti, on l'a perdu plus tôt. Monsieur Topanou, comment pousser aujourd'hui le président Talon à faire de ce dialogue une urgence? Vous entendez l'appel de l'opposition, qui n'est pas nouveau.
C'est vrai que c'est particulièrement difficile, je trouve. Lorsque vous avez une opposition qui s'auto-proclame radicale, vous imaginez bien que c'est toujours difficile de travailler avec une opposition radicale. Voilà, sur le principe. Maintenant, vous avez entendu le représentant, le président du PLP, dans tout son raisonnement, il n'a à aucun moment, fait appel à la réforme ou à la révision constitutionnelle qu'il y a eu. En fait, le problème, il est là. Parce que l'opposition ne reconnaît pas cette révision qu'elle considère avoir été faite par une assemblée qu'elle considère comme étant monocolore et illégitime, en conséquence de quoi il continue de penser que le mandat devrait s'achever au 5, alors que la révision a prévu cette rallonge de 45 jours qui est totalement légale puisqu'il est prévu que, y compris sur le principe de la rétroactivité des lois, que l'on puisse avoir des exceptions bien connues. Voilà. Ce débat, sur le plan technique, avait été tranché. Mais sur le plan politique, en effet, l'opposition refuse cela. Et à partir de ce moment-là, si vous refusez à la personne la légitimité, la légalité, je ne comprends pas comment vous voulez aller discuter avec quelqu'un qui est illégal et illégitime.
Mais en même temps, M. Topanou, si cette perspective de dialogue s'éloigne, la réconciliation n'est pas envisagée parce qu'il y a des positions radicales de part et d'autre, quelle issue à ce bras de fer? Il faut bien que la classe politique, à un moment donné, trouve une solution au nom de...
Oui, je pense que pour commencer, il faut déjà que l'opposition reconnaisse la légalité et la légitimité de son interlocuteur. Sinon, on va dans l'impasse.
Mais quels sont les actes que le président Talon a posés en direction de l'opposition par rapport à ce dialogue et qui sont peut-être restés sans suite? Qu'est-ce qu'il a fait pour dire à l'opposition, madame, je veux dialoguer?
Madame, il faut faire attention. En fait, c'est l'opposition qui exige les assises. Ce n'est pas le gouvernement qui est demandeur.
Oui, on est bien d'accord.
Maintenant, voilà. Si on est d'accord que c'est l'opposition qui la demande, c'est à l'opposition de faire le premier pas, notamment reconnaître la légalité et la légitimité de celui à qui on demande le dialogue. Sinon, on est dans un contresens parfait. Et donc, celui à qui vous niez la légitimité et la légalité peut vous dire, bon, d'un instant, vous ne me reconnaissez pas. Pourquoi vous diriez-vous que je fasse un effort pour aller discuter avec vous? Pourquoi? Il n'y aura aucune raison. Donc, moi, merci. Je pense que si on doit aller vers un dialogue, il y a un premier pas que l'opposition devra poser, c'est-à-dire reconnaître la légitimité de son interlocuteur et ensuite poser les problèmes qu'il souhaiterait voir discuter au cours de cette rencontre-là. Merci. Si on ne le fait pas comme ça, si chacun reste dans son coin en disant « oui, l'autre est illégal, illégitime, et puis voilà, patati patata », je suis franchement... Je ne suis pas sûr qu'on puisse demander à l'autre en face de faire un effort pour aller à un dialogue.
Monsieur Oumbadi,
en tout cas, c'est ce que je pense,
l'opposition est-elle dans une position?
Je viens d'entendre trop de contre-vérité là. Oui. Parce que y
vous
a
avez une minute trente.
Oui. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a remis en cause la révision opportune de notre constitution de 2019. Et la Cour africaine des droits de l'homme a clairement dit que la constitution qui est en vigueur est celle du 11 décembre 1990. Et donc, que toutes les lois légalisant la dictature autocratique au Bénin puissent être revues avant l'organisation de toutes les élections au Bénin. Donc, nous sommes dans notre droit de dire que nous ne reconnaissons pas Patrice Talon en tant que président du Bénin depuis le 6 avril 2021. Donc, nous sommes cohérents. Nous sommes une opposition cohérente. Nous sommes une opposition responsable. Donc, nous sommes des patriotes et des démocrates. Nous ne sommes pas au service de Patrice Talon. Nous ne sommes pas des corrompus. Nous sommes des gens et nous aimons le Bénin et nous voulons continuer le combat démocratique pour libérer le Bénin. Alors, je vous parle, les conditions ne sont pas encore réunies pour que nous puissions aller à une réconciliation. Il n'y a pas de réconciliation sans la paix. Il n'y a pas de réconciliation sans la justice, il n'y a pas de réconciliation sans la liberté.
Mais je vous ai demandé est-ce que vous êtes prêt à faire ce premier pas dont parle monsieur Topanou pour qu'il en brise la glace pour aller se...
Je vous dis, monsieur Topanou sait très bien, il était avec nous dans l'opposition. Il sait tout ce que nous avons fait dans l'opposition. Il est bien placé pour le savoir. Et il sait très bien que depuis 5 ans, au niveau de l'opposition, nous sommes les premiers à demander un dialogue national inclusif, serein et constructif pour sortir notre pays de sa situation actuelle. Patrice Talon ne veut pas du dialogue. C'est un autocrate, c'est un dictateur sanguinaire. Il ne veut pas du dialogue. Il a été clair là-dessus. Et vous avez suivi son ministre des Affaires étrangères qui a clairement dit que c'est Patrice Talon qui a donné l'ordre à l'armée de tuer, de massacrer nos populations.
Merci.
Donc nous disons aujourd'hui que nous devons aller à la vérité pour faire la lumière sur les massacres des populations, faire en sorte que ceux qui sont détenus illégalement puissent recouvrer leur liberté.
Merci, monsieur Oumadi.
À ce dialogue-là.
Merci, on se retrouve pour poursuivre le débat et le conclure.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
L'arrestation en cascade des opposants au Bénin est-elle la réponse appropriée à la crise politique qui persiste dans ce pays? Nous en débattons ce soir avec nos invités, donc Abalo, que nous avons perdu, qui est le porte-parole de l'USL, qu'on espère entendre dans un instant. Et nous avons également Victor Topanou, maître de conférence de sciences politiques à l'Université d'Abomey-Calavi, ancien ministre de la Justice de Thomas Boni-Yayi et membre de la commission chargée des réformes politiques et institutionnelles mise en place par le président Patrice Talon, Julien Oussou, coordonnateur régional du WANEP Bénin, le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix, à qui je m'adresse maintenant. Monsieur Oussou, on est véritablement dans un dialogue de sourds. Quand on écoute messieurs Topanou et Oumbadi, comment faire si le dialogue n'est plus envisagé ou n'est pas envisageable comme seule issue pour sortir de cette crise? Alors, quoi donc?
Alors, c'est, de toutes les façons, et je continue de dire, il interviendra à un moment ou un autre, parce qu'on ne peut pas régler des problèmes entre des fils d'un même pays sans leur permettre de dialoguer. Il interviendra. Mais en attendant qu'il intervienne, puisque les positions sont si tranchées, c'est pourquoi nous appelons à ce que... et là, c'est un appel à la justice de savoir que c'est des moments difficiles pendant lesquels elle doit montrer que pour le travail qu'elle a à faire dans un contexte comme ça, il y a des règles que tout le monde connaît, il y a des principes que tout le monde accepte, qu'il faut faire l'effort de rester le plus près possible de ces principes pour ne pas nous donner l'impression qu'on est en train de l'utiliser pour régler ça. Donc pour nous, et pour moi, je pense fondamentalement, c'est de ce côté-là. Quand on a décidé de ne pas dialoguer avec les autres, et quand on a décidé d'utiliser la loi parce que peut-être on a les leviers pour l'utiliser, il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas, disons, des inquiétudes dans la manière qu'on utilise cette loi et qu'on utilise les institutions ou les organes dont on a la disposition en tant que ressources politiques, qu'on le veuille ou non. Et les ressources politiques peuvent être utilisées pour créer, disons, et embrigner une situation qui est déjà très, très tendue. Et c'est pourquoi, disons, pour le moment, la pression ou les demandes doivent être dans le sens de ce que si on veut l'utiliser, ces ressources politiques qu'on a, il faut les utiliser de la manière à ce que l'on ne puisse pas, disons, arbitrairement arriver à des décisions ou à des condamnations.
Donc vous voulez dire, monsieur Oussou, de votre point de vue, quand on vous entend, on a l'impression que vous êtes en train de dire que de toute façon, ces arrestations d'opposants ne peuvent pas aider à régler la crise politique au Bénin.
Ce qu'il y a, c'est qu'elles sont en train de changer les relations entre acteurs politiques dans le Bénin que nous connaissons. Elles vont davantage changer les relations entre acteurs politiques. Elles vont créer des relations très tendues, très tranchées entre acteurs politiques. Et on est parti pour 5 années, peut-être, de difficultés, et peut-être après les 5 années, des difficultés à nos points finis. De mon point de vue, il faut regarder cela et faire en sorte que je suis sûr de ce que si les procédures, les choses se passent de la manière dont elles doivent se passer, qu'on a les preuves de ce que tel a fait tel, et que ça soit des deux côtés, on ne peut pas nous dire au-delà de la violence préélectorale. Pendant le scrutin, on a vu aussi un certain nombre, disons, de violations des lois de la République qui ont circulé. On attend aussi que le même empressement soit utilisé par la même justice pour régler ces questions-là, pour qu'on puisse savoir qu'elle n'est pas uniquement orientée sur un camp, parce que c'est tout ça qui va complexifier le contexte pour nous, qui va rendre difficile le dialogue en son temps et qui va
peut-être nous faire déplorer tous les conséquences et les changements dans les relations politiques qu'on est en train d'avoir dans le pays.
Monsieur Topanou, cette crise politique au Bénin dure quand même depuis la fameuse réforme électorale. Si les deux camps qui semblent se livrer à une véritable bataille pour imposer un rapport de force favorable à l'un ou l'autre camp n'arrivent pas à s'entendre, peut-être ne faudrait-il pas envisager une troisième voie, la CEDEAO ou une personnalité suffisamment consensuelle pour pousser les acteurs à se parler?
Oui, je suis tout à fait d'accord. Si vous permettez, je pense que la position de M. Oussou me convient également très bien. Contrairement à l'opposition, je continue, peut-être à tort, mais je continue de faire confiance à la justice. Et je fais le pari que ce n'est pas tous ceux qui ont été interpellés qui seront condamnés. S'ils ont été interpellés dans le cadre d'une procédure pour vérification et qu'après vérification, on se rend compte qu'ils n'ont pas été, qu'ils ne devaient pas être arrêtés, on les lâche, on les relâche. Ça a toujours fonctionné ainsi, la justice. Et ce n'est pas parce qu'on vous a arrêté que vous êtes coupable, surtout. Non, on ne devient coupable qu'au terme d'un procès régulier, équitable.
Et maintenant, sur cette troisième voie, on n'a plus que 3 minutes, s'il vous plaît, pour cette troisième voie.
Si effectivement c'est bloqué, oui, à ce moment-là, il faut envisager une troisième voie. Ça pourrait être une organisation internationale, mais encore faut-il que les deux parties soient d'accord qu'il y a un problème. Parce que ce n'est pour le gouvernement, ce n'est pas parce que l'opposition dénonce, critique, que forcément il y a un problème. Ils ont une logique qu'ils peuvent opposer. Et je pense
Mais est-ce que le gouvernement a raison quand il dit qu'il ne reconnaît pas la crise et procède à l'arrestation des opposants? Qu'est-ce que vous en pensez?
Madame, je pense qu'il faut distinguer les deux. Je continue de penser que les arrestations dont vous parlez ces derniers temps sont directement liées à la violence qui a atteint un niveau totalement parasismique dans notre pays.
Oui, vous l'avez dit, Monsieur Topanou, je disais, si vous reconnaissez qu'il faut que les deux parties se parlent et qu'il y ait une troisième voie, il faut déjà qu'on admette qu'il y a crise. Et pour le moment, vous-même, vous venez de le dire,
mais
le pouvoir n'accepte pas qu'il y ait crise.
C'est pour ça. Je suis d'accord avec vous, mais à ce moment-là, il faut que le gouvernement reconnaisse qu'il y a un problème. Pour le gouvernement, jusqu'à présent, il n'y a pas de problème.
Est-ce que vous êtes d'accord avec le gouvernement?
Il m'arrive de penser que les réformes, justement, qui sont contestées, peuvent avoir quelque chose de bon. Voilà. Moi, c'est ça le faible que j'ai. Je considère, surtout pour y avoir été associé, que ça n'a pas été fait à de mauvais desseins. Merci. Malheureusement, sur le plan politique, ça a été mal perçu. Probablement, n'y a-t-il pas eu suffisamment de communication. Probablement.
Merci.
Mais à ce moment-là, je pense qu'il y a encore de la place pour des explications. Il faut que le gouvernement continue d'expliquer l'esprit de ces réformes pour qu'elles ne soient pas comprises totalement de travers. Parce que j'ai comme le sentiment qu'à force de vouloir bien faire, on a le sentiment que c'est tellement mal perçu que c'est tout le contraire.
Merci, M. Topanou. On va laisser une minute à M. Oumbadi pour conclure aussi. M. Oumbadi, est-ce que vous êtes d'accord pour un médiateur, peut-être, pour tenter de vous pousser les deux parties à ce dialogue?
Bon, nous, notre position au niveau de l'opposition, je le disais tout à l'heure, elle est claire. Nous avons demandé à ce que les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme soient respectées, que les détenus politiques soient libérés. Il y a des conditions que nous posons. L'opposition n'est pas responsable.
Donc pour vous, le préalable pour aller à ce dialogue, c'est déjà la libération des personnes arrêtées, des opposants arrêtés.
Il faut libérer tous ceux qui sont arrêtés. Nous avons au moins plus de 400 personnes qui sont aujourd'hui arrêtées depuis le 5 avril jusqu'à l'heure où je vous parle. Plus de 400 personnes. Et beaucoup sont enlevés de leur maison dans la rue, un peu partout. Il y a beaucoup de disparus. Il y a même une liste partielle, je vous l'ai transmise déjà. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train de faire le point des personnes qui sont arrêtées, tuées, massacrées par l'armée, par la police. Le pouvoir même illégal en place a même recruté même des miliciens qui ont opéré dans certaines zones. Nous avons des
Revenons au dialogue, monsieur Oumbadi. Donc, a priori, vous, à l'opposition, vous êtes favorable à ce qu'il y ait un médiateur, que ce soit la CEDEAO ou une personnalité locale pour faciliter ce dialogue
nous
ou bien au moins les contacts.
Je viens de vous dire que depuis 5 ans, l'opposition a toujours appelé à un dialogue national inclusif. Nous ne l'avons pas encore obtenu jusqu'à aujourd'hui. Là où nous sommes aujourd'hui, ce qui est urgent, c'est la libération de tous les prisonniers politiques, de tous les détenus politiques, le retour des exilés politiques, parce qu'on va dialoguer avec qui ? Vous allez dialoguer avec des animaux, vous allez dialoguer avec des hommes. Ces hommes aujourd'hui sont tués, traqués, emprisonnés et exilés. Donc il faudrait que tous les fils et toutes les filles du Bénin puissent rentrer, puissent sortir des prisons, pour que ensemble, la main dans la main, nous puissions bâtir un Bénin nouveau, un Bénin libre, uni, prospère et juste.
Merci.
Mais aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies. Donc nous devons travailler à cela et c'est pourquoi nous disons que Patrick Talon est illégal et légitime et
merci.
Nous, notre peuple doit continuer son combat jusqu'au bout.
Merci beaucoup. La perspective de dialogue qui décidément semble s'éloigner davantage au Bénin. Et nous en parlions donc ce soir avec Léonce Oumbadi, président du Parti pour la Libération du Peuple, PLP, avec Duncan Abalo, porte-parole de l'USL, de Sébastien Adiavon, Victor Topanou, maître de conférence des sciences politiques et membre de la commission chargée des réformes politiques de Patrice Talon, et enfin Julien Oussou, coordonnateur du régional du WANEP Bénin. Merci à vous.